Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
On se retrouve, bonsoir à tous, bienvenue, enfin bonjour puisque, comme vous l'avez bien compris, nous enregistrons cette émission. Voilà, ça c'est fait, hein. Voilà, c'est le ton de
bonne
cette
nuit.
Soirée. Bonne nuit, il est midi, c'est tout, il est midi et demi, vous êtes sur 48 FM et c'est Actuel et lui, cette émission où tout se passe dans la bonne humeur, comme vous le voyez. Donc bonjour Anne-Marie, bonjour Aurélie.
Salut
bonjour.
Guillaume.
Salut Aurélie.
Alors, au programme de ce troisième numéro déjà d'Actuel et lui, trois sujets comme d'habitude. Anne-Marie, tu vas nous parler
d'un film qui s'appelle Amour.
Voilà, on a beaucoup entendu parler dans l'actualité.
Ouais.
Aurélie, tu vas nous parler.
Les filles font dans le cinéma. Ouais. Moi, je vais vous parler des Misérables.
Eh oui, Les Misérables. Peut-être l'avis tel qu'il nous le donne, c'est que le film est misérable.
Voilà.
Mais on verra ça tout à l'heure.
Et toi, Guillaume, tu vas nous parler ?
Et moi, je vais vous parler de Nicolas Le Floch. On reste un peu dans l'histoire et aussi dans la série télé et dans le livre, puisque c'est aussi une série littéraire. Donc, on commence avec cette première partie sur le film Amour. Effectivement, on a entendu parler de lui dans l'actualité. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots de quoi il s'agit déjà dans un premier temps ?
Oui, alors donc, je vais vous parler du très joli film Amour. Alors, cet hymne à l'amour réalisé par Michael Haneke est une perle qui réchauffe le cœur et humidifie le mouchoir. Ce film est peut-être la meilleure interprétation du mot « amour ». Ce mot prend effectivement tout son sens dans cette œuvre franco-autrichienne. Un amour sans âge, un amour fort défiant la maladie et la mort, un amour sans détour, un amour grâce auquel des octogénaires vont jouer leur dernière gamme de musique ensemble. Amour, c'est donc l'histoire de Georges, interprétée par l'excellent Jean-Louis Trintignant, et de sa femme, Anne, interprétée par la sublime Emmanuelle Riva. Deux retraités, anciens professeurs de musique, qui mènent une vie ordinaire jusqu'à ce qu'un mal ronge la mémoire et le corps d'Anne. À partir de ce moment-là, Georges décide de s'occuper de son épouse. Tel un père prenant soin de son enfant, Georges fait la toilette de sa femme, lui donne à boire et à manger. Mais de façon très pudique, le film ne montre que des scènes soutenables et respectueuses.
Donc un film très poignant qui traite de la fin de vie, des maladies qui y sont liées et donc de la dépendance.
Effectivement, parle de la maladie et de cette fin de vie. Le spectateur voit l'évolution fulgurante de l'état de santé de cette femme. Victime à deux reprises d'accidents vasculaires cérébraux, Anne est entraînée dans une chute libre, sans rémission possible. Des silences et des incompréhensions se transforment en oubli, en page blanche. La mémoire flanche, puis Anne devient donc handicapée du côté droit et perd ensuite l'usage de la parole. Dans ce néant, elle est victime d'un rouleau compresseur contre lequel la lutte semble inégale. Mais par amour pour sa bien-aimée, Georges va l'aider à vivre et va l'accompagner, et ce jusqu'à son dernier souffle.
Donc finalement, ce film pose des questions sur la société, enfin, réinterroge aussi cette façon d'accompagner les personnes vieillissantes.
Tout à fait, même si au fond le but de ce film n'est pas de pointer du doigt les carences de la société, c'est vraiment un film d'amour, mais c'est vrai qu'il est un prétexte pour réfléchir sur les failles et les manques de moyens du système de santé français. Comment faire pour garder une personne âgée malade chez soi ? Comment peut-on traiter de la dépendance avec respect et humanité ? Donc Anne, dans le film, comme tant d'autres personnes dans la réalité, dans la vraie vie, Anne veut coûte que coûte rester chez elle, impossible pour elle de mourir dans des draps qui ne sont pas les siens. Et donc son mari, Georges, lui évite l'hôpital et la maison de retraite médicalisée. Oui, mais voilà à quel prix. Ce geste d'amour et de dévouement extrême est magnifique, mais le spectateur voit le changement physique de Georges. Épuisé, il a le dos qui se voûte et les cernes qui se creusent. Ce film est une fiction, mais malheureusement, de très nombreux couples vivent cette situation épuisante, bon, par exemple causée par un AVC comme dans le film ou par la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, en regardant Amour, une autre question vient à l'esprit. À quand une loi en France pour mourir dans la dignité ?
Bref, on en reparlera.
Oui, tout à fait. Bref, ce film est ancré dans une réalité qui forcément nous touche. on n'a pas forcément vécu cette situation, mais nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont peut-être vécu ou vivent encore cette situation douloureuse.
Alors, tu nous dis que c'est un film touchant, et effectivement, dans la façon dont tu nous l'as exprimé, enfin, voilà, on sent tout cet aspect sensible qui est dans ce film. Mais c'est un film aussi qui a rencontré un vrai succès auprès de la critique et qui a donc reçu un certain nombre de récompenses.
Oui, c'est vrai que c'est même une pluie de récompenses, puisqu'en tout, Amour en totalise 22. Et d'ailleurs, aucun cinéaste n'avait obtenu autant de récompenses pour un même film. Il faut savoir qu'en 2012 et en 2013, Amour a raflé la Palme cannoise, le Golden Globe, le BAFTA, l'Oscar du meilleur film étranger, l'European Award et le César du meilleur film. C'est vraiment mérité. Michael a une queue délicate, sensible, tout en nuances, a su réaliser un film intense pour peindre ce qu'on appelle la fin de vie.
Bon, il n'est pas venu chercher son César, mais...
Et non.
Et les deux acteurs principaux aussi, Jean-Louis Trintignant et Manuel Riva, ont aussi été récompensés, je crois.
Exactement. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Jean-Louis Trintignant et Manuel Riva ont reçu... À 82 ans, pour lui et 85 ans pour elle, leur premier César du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Malgré des carrières très longues de comédien et d'acteur, alors Dieu créa la femme, Compartiment tueur, Vivement dimanche pour lui, pour elle Hiroshima mon amour, Thérèse d'Esquirou, eh bien les octogénaires ont attendu de tourner le film Amour pour enfin se voir décerner ce prix au César. Par ailleurs, Emmanuelle Riva a été en compétition pour l'Oscar de la meilleure actrice à 86 ans, puisqu'en fait, le jour J aux États-Unis, oui, elle a soufflé ses 86 bougies. Eh bien, elle est devenue la comédienne la plus âgée jamais nommée pour cette récompense. À noter aussi qu'elle s'est retrouvée en compétition avec la plus jeune actrice de l'histoire des Oscars à être citée pour ce prix. C'était Wallis, du haut de ses 9 ans, pour le film « Les bêtes sauvages ».
Oui, effectivement, c'est...
Voilà, il y avait la plus jeune et puis la plus âgée. Voilà. Mais finalement, ni l'une ni l'autre n'a remporté cet Oscar, puisque c'est Jennifer Lawrence qui l'a reçu pour le film Happiness Therapy.
D'accord.
Alors, si on résume, est-ce que tu nous conseilles d'aller voir ce film ?
Enfin, évidemment.
Évidemment, la façon dont tu l'as présenté... Voilà.
Et est-ce qu'on peut encore le voir ?
Oui, oui, oui. Et c'est ça, justement, qui est bien. Si donc vous n'avez pas déjà vu ce film, regardez-le absolument. Alors, si vous voulez le voir dans les salles obscures, le cinéma Le Trianon à Mende le diffuse du 6 au 11 mars. Sinon, vous pouvez déjà vous le procurer en DVD. Mais vous l'aurez bien compris, vous ne resterez pas de marbre après avoir vu ce magnifique film Amour.
Et oui, ça fait d'ailleurs rebondir un débat qui est encore dans l'actualité. C'est justement toutes ces questions autour de la fin de vie. Ça apporte un peu de l'eau au moulin. Donc, on a cru lire entre tes lignes que, effectivement, tu te positionnais
une évolution législative sur ce sujet.
Tout à fait. On autorise l'euthanasie pour les animaux pour éviter qu'ils ne souffrent trop. Pourquoi on ne permet pas ça à un être humain ? C'est vrai qu'il y a un décalage en fait entre la façon dont on peut traiter les animaux, et c'est très bien d'ailleurs d'éviter qu'ils le souffrent, ça je ne suis pas contre, au contraire, mais pourquoi un être humain doit-il vivre des souffrances terribles quand finalement il n'y a plus d'espoir, pas de rémission possible ? C'est vrai que dans ce film, on sent donc Jean-Louis Trintignant qui joue Georges. Il est complètement épuisé. Il le sait lui-même qu'il n'y aura pas d'espoir. Alors justement, je ne vais pas vous raconter la fin du film, mais à un moment donné, il n'en peut plus. Voilà. Mais c'est terrible d'en arriver là.
C'est une question de dignité, en fait.
Mais tout à fait, c'est de respect.
Donc c'est un film, mais ça peut susciter le débat et
voilà,
la réflexion.
C'est encore une fois, c'est vraiment un film d'amour, mais qui quand même effectivement fait réfléchir, pose des questions. Alors les réponses après ne sont pas entre nos mains, bien évidemment.
Mais c'est ça fait avancer le débat, oui, en tout cas, voilà. Ce genre de position.
Et après, puis c'est un sujet qui est quand même, qui est un peu à l'agenda quand même malgré tout. Peut-être pas dans les toutes prochaines. Semaine, mais en tous les cas,
ça revient régulièrement, mais c'est vrai que, alors qu'il y a beaucoup de pays finalement qui autorisent l'euthanasie, effectivement, en France, on est plutôt frileux, même si on a l'impression que la population est pour, mais on sent qu'au niveau quand même.
Législatif.
Oui, politiciens, les politiciens ne sautent pas le pas.
Voilà. En tout cas. Voilà. à discuter tous ensemble, chaque citoyen, de se positionner. Voilà.
Et bah, pour y réfléchir, il ne faut pas hésiter donc, à aller voir le film. Donc, effectivement, nous, on ne l'a pas vu. Donc, voilà, c'est un peu difficile.
C'est un peu dur de rebondir.
mais voilà. Après, est-ce que finalement, par rapport à cette avalanche de récompenses, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un petit peu parce que ça a touché tout le monde dans son... dans sa vie personnelle, et est-ce que, enfin voilà, est-ce que finalement c'est pas un bon truc à savoir si on veut avoir un Oscar, un César, une Palme, un BAFTA et un Golden Globe, d'aller jouer sur cette carte du sensible et du...
Après, on tombe pas non plus dans le pathos, hein, mais c'est vrai que cette corde sensible effectivement a permis, je pense, à tout le monde d'être touché. On peut pas rester encore une fois insensible face à ce film. Maintenant, les acteurs jouent très très bien, donc je pense que ces récompenses sont quand même méritées parce qu'ils sont magnifiques. Honnêtement, Jean-Louis Trintignant, 82 ans, Emmanuel Riva, 85, donc lors du tournage du film, mais je les trouve magnifiques et j'espère qu'à leur âge on pourrait être aussi magnifique. Ils jouent très très bien et ils méritent toutes leurs récompenses.
Bien, mais voilà un bon conseil ciné. Donc
bon, là le moral est dans les chaussettes, mais.
Oui, non, c'est quand même un bon conseil ciné pour la semaine prochaine, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ce film.
Voilà, jusqu'au 11 mars au cinéma Le Trianon.
Très bien, mais merci pour cette première présentation. Merci Anne-Marie. Tu nous proposes une petite virgule musicale, une petite pause musicale. Alors dis-nous ce que tu nous proposes.
Tout à fait. Alors pour rester dans le thème de l'amour, cet amour qui dure à travers les décennies, eh bien je vous propose une chanson du groupe Volo, tu connais. Voilà, c'est en fait, écoutez bien les paroles. Un homme dit qu'il aime sa femme de plus en plus, plus le temps passe et plus il l'aime. Donc on est vraiment dans la thématique du film.
C'est beau.
Voilà.
C'est maintenant.
Tu connais mon tonton, tu connais sa compagne, tu connais la maison qu'ils ont à la campagne, tu connais mes parents, tu connaissais ma grand-mère, t'as pleuré avec maman au cimetière. Je connais ton frangin, je connais ta frangine, j'ai déjà vu ton père en slip dans sa cuisine. J'ai dormi dans la chambre de quand t'étais gamine et j'ai lavé le doudou du fils de ta cousine. Et si c'est le temps qui passe qui fait qu'on se connaît, il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais. Tu connais mes potes, tu connais nos souvenirs, tu connais les anecdotes qui nous font rire. Tu connais mon état quand j'ai trop fait la fête et tu m'as vu déjà pencher sur la cuvette. Je connais tes retards, je connais ton boulot, je connais le petit square au pied du métro. Je lis le post-it que tu me laisses sous le frigo, les revues de la salle d'attente de ton gynéco. Et si c'est le temps qui passe qui fait qu'on se connaît, il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais. Tu sais qui j'ai aimé avant qu'on se connaisse. Tu me confies tes peurs et tu partages mes doutes. Tu corriges mes erreurs et tu les pardonnes toutes. Je connais tes soupirs, je connais ton souffle, l'éclat de ton rire et le goût de ta bouche. J'écoute ta voix et son chuchotement et comment tu respires en t'endormant. Et si c'est le temps qui passe qui fait qu'on se connaît, il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais. C'est le temps qui passe qui fait qu'on se connaît. Il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais.
Et lui.
Alors, et lui, c'est Guillaume. Donc, Guillaume, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Alors je vais vous parler de Nicolas Le Floch et je vous propose de rentrer dans l'ambiance en écoutant le générique de la série télé qui retrace la vie de ce policier du XVIIIe siècle.
Donc là, on a écouté le générique de la série, mais toi, d'abord, Guillaume, tu vas nous parler plutôt du roman historique.
Oui, voilà, c'est d'abord, avant tout, un personnage qui a été créé pour un livre, enfin pour une série littéraire, et puis qui a été effectivement ensuite adapté en série télé pour France 2. L'histoire, pour commencer un petit peu, on approfondira un peu les choses tout à l'heure. L'histoire, c'est Nicolas Le Floch, le marquis de Ranreuil. Alors, on ne reviendra pas sur son histoire parce qu'il faut lire les livres pour découvrir la façon dont s'est construite sa vie, mais qui est le commissaire aux affaires extraordinaires de Louis XV et de Louis XVI, donc commissaire de police, en charge de toutes ces affaires secrètes entre les complots, les jeux de cour, et donc il a cette grande mission au sein de Paris, finalement, de cette capitale, d'être le commissaire de police et de gérer ses affaires extraordinaires.
Et donc, qui est-ce qui écrit cette série ?
Alors, c'est Jean-François Parot qui écrit cette série. Jean-François Parot est un diplomate depuis 1974, mais rien ne le destinait vraiment à cette carrière. Au départ, il est né dans une famille qui était plutôt dans le milieu du cinéma. Son grand-père a participé au montage de Napoléon d'Abel Gance, donc une certaine sensibilité aussi à l'histoire. Son grand-père lui l'a aussi initié à la ville de Paris, à son charme, en lui faisant découvrir la ville rue après rue. Voilà. Mais après, lui, il s'est orienté effectivement vers cette dimension de l'histoire. Et il a fait un mémoire de maîtrise sur justement l'histoire du XVIIIe siècle, qui s'intitulait « Les structures sociales des quartiers de Grève, Saint-Avoy et Saint-Antoine entre 1780 et 1785 ». Et donc, il a analysé finalement la façon dont vivaient ces quartiers parisiens à cette époque-là. Et bien sûr, il s'en sert pour la série. Et puis, donc, il est aussi, Jean-François Parot, diplômé d'études supérieures d'ethnologie et notamment des techniques de momification égyptienne. Il a appris aussi un certain nombre de choses, on en reparlera tout à l'heure, qui lui ont servi dans cette description aussi des personnages et puis d'un certain nombre de choses, de certaines pratiques qui ont lieu dans le livre.
Donc on a un diplomate qui est super calé en histoire et qui en plus connaît tout un tas de techniques de police scientifique, mais qu'est-ce qu'il fait écrire ? Parce qu'il devait quand même être occupé la journée, il a un métier cet homme.
Alors, effectivement, il est diplomate, donc il court les différentes ambassades, consulats depuis quelques années. Et c'est lorsqu'il était à Sofia, en 1994, qu'il avait envie de combler ses longues soirées hivernales, froides et neigeuses. Et donc, son fils, qui appréciait aussi son talent de conteur, l'a un peu incité à passer le pas et à écrire ces histoires dans lesquelles il baignait et auxquelles il était fortement intéressé.
Et c'est justement des histoires qui sont à chaque fois très documentées. Du coup, comment il fait ? Est-ce qu'il se sert de son expérience ?
Eh bien, justement, il utilise pour écrire... d'abord, c'est ce mémoire qu'il a réalisé dans le cadre de ses études qui lui a donné une vraie connaissance de cette vie des gens à cette époque du XVIIIe siècle et vraiment dans l'intimité. Et c'est quelque chose qu'il retrace dans le livre, ses relations, c'est toute cette vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment très, très riche dans la lecture de cette série littéraire. Donc voilà, il s'installe dans cette période du Paris des Lumières, avec aussi certains personnages qui annoncent de façon un peu perlée ce qui va se passer après, puisqu'on se rapproche de 1789 hein, au fur et à mesure de la série. Hein, là, le dernier opus dont on parlera tout à l'heure est en 1783. Donc on se rapproche de cette échéance-là et par petites touches, on découvre aussi certaines, bah, certaines révoltes, certains changements qui se construisent. Voilà, donc après, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, bah voilà, la partie sur les momies et sur l'ethnologie, Jean-François Parot l'utilise autour des techniques de, effectivement, de médecine légale, alors des prémices de ce que peut être la médecine légale.
Version 18e siècle.
Voilà, et c'est effectivement assez original aussi dans cette façon de le présenter, mais c'est effectivement des éléments aussi marquants de ces enquêtes, puisqu'on est avec un commissaire et on suit ses enquêtes, et ce sont toujours des moments qui sont très révélateurs pour la suite de l'enquête. Alors, simplement, cette inscription dans l'histoire, dans tout ça, pour Jean-François Parot, c'est une façon de faire le lien entre les thèses académiques et de pouvoir les donner plus facilement au public. Alors, je vais juste vous citer Jean-François Parot dans une interview en janvier 2006. Il dit: je crois que le romancier qui s'attache à l'histoire peut être aussi un passeur. Il y a une histoire universelle qui demeure pour moi essentielle, dans laquelle je me plonge avec délectation et intérêt. Mais cette histoire universitaire n'est pas toujours à la portée du plus grand nombre. Et je crois qu'il n'est pas inintéressant que les résultats, les visions, les découvertes de cette histoire universitaire puissent passer dans un univers romanesque. Voilà, et c'est vrai que c'est relativement reconnu dans son écriture, cette qualité de recherche historique et en tous les cas de ce qui est raconté.
Donc ça veut dire qu'il y a de bonnes critiques au niveau des historiens. Est-ce que effectivement ils trouvent qu'il peint une fresque réelle?
Alors, avec forcément aussi une partie qui est romancée, hein, puisque l'histoire de ce personnage-là et de ses relations ne sont pas dans l'histoire de France. Mais malgré tout, il essaye de s'appuyer sur un certain nombre de faits qui existent dans l'histoire, qui sont notamment retracés dans l'Almanach royal, hein, qui finalement cite finalement les grands sujets, les grandes affaires. C'est comme si finalement on lisait la Lozère Nouvelle de la France mais c'est un peu ça. C'est voilà, et donc ça permet de retrouver un peu des éléments qui sont à la fois du fait divers, mais aussi des grandes histoires, des grands complots, des grandes révoltes, ou plutôt aussi des aspects plus diplomatiques là aussi, puisque il y a quand même dans les aventures de Nicolas Le Floch des expéditions en Angleterre, plutôt du côté de l'Europe de l'Est aussi. Donc voilà, il y a tout ce rôle-là qui est aussi important dans cette histoire de Nicolas Le Floch.
Et on peut dire peut-être que c'est ses contenus et le fait qu'il y ait vraiment ce fond qui permet à la fois que ce soit un succès littéraire et en même temps que ça s'exporte.
Oui, c'est certain que cette qualité de
d'écriture
et de recherche finalement fait que la série est effectivement intéressante, parce qu'elle permet, avec un côté très ludique finalement, de découvrir un petit peu l'histoire de France par une autre façon de le voir. Alors il y a aussi une volonté d'être vraiment dans les mots. Les dénominations de rue, les dialogues aussi parfois qui sont faits. Et donc là, vraiment, il essaye de travailler avec les dictionnaires de l'époque pour entendre la musique de la voix. Et donc là, il dit en 2009, l'évocation du passé impose de retrouver sa musique. Et celle-ci, c'est aussi la langue. Elle est tenue et élégante, mais cohabite dans les mêmes personnages avec un parler vert et cru. C'est cet étonnant mélange qu'il faut tenter d'approcher pour atteindre la vérité du temps. Il s'agit d'être vraisemblable, d'user de mots sonnants et trébuchants, sans pour autant tenter l'impossible reconstitution. On y parvient là aussi par la rumination des auteurs de l'époque. La synthèse inconsciente se fait et peu à peu vous fournit la juste mélodie. De surcroît, j'attache une grande importance aux mots et aux expressions. Ces mots et ces expressions oubliées que ma marotte souhaite défendre, parce qu'ils ont bien servi et peuvent le faire encore. Enfin, au bout de 8 romans, chacun des personnages retrouve spontanément, sous la plume, ses habitudes de langage, entraînant naturellement l'écriture. Voilà, donc vraiment une volonté d'être réaliste. On a des recettes de cuisine de l'époque, on a vraiment toute une vie aussi qui est racontée.
Et alors, ça donne envie ou pas? Au niveau des recettes de cuisine.
Ah, il y a des, ouais. des trucs qui sont...
Il y a des plats qui sont...
Oui, ouais, des trucs bien sympathiques. Alors, souvent, des trucs bien... Enfin,
qui... Bien gras, bien lourd, non ?
Non, pas, non pas forcément, mais des choses qui sont... Enfin, c'est évoqué avec... avec délectation, on sent vraiment ce côté-là. C'est souvent des plats qui ont cuit très longtemps, qui ont,
voilà, bien mijoté.
Voilà, des trucs très mijotés.
Beaucoup d'épices.
Oui, voilà, des questions d'épices, des questions de vin aussi, beaucoup d'évocation des vins. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympathique. Enfin, c'est aussi un des éléments qui fait la richesse de cette série, avec ses personnages principaux, forcément Nicolas Le Floch, mais aussi Sartine. Donc, d'abord... j'ai perdu son titre, c'est l'équivalent du ministre de la police, mais je ne l'ai plus en tête, pardon. Mais voilà, donc Sartine, Nicolas Le Floch, son inspecteur avec qui il travaille, donc Bourdeau, l'ancien procureur de Noblecourt chez qui Nicolas Le Floch habite, ses amis, Segmagus, un ancien capitaine de marine, Samson, le bourreau, qui va être le médecin légiste des enquêtes de Nicolas Le Floch, en quelque sorte. Voilà, Laborde, proche du roi, valet du roi, son tout proche qui vit ensuite la suite et qui accompagne aussi Nicolas dans la cour, puisque il est lui né un enfant perdu, donc qui a été éduqué par un pasteur, ensuite parrainé par le marquis de Ranreuil, dont il a ensuite hérité du titre, et donc il est éduqué à ses faits de la cour par un certain nombre de gens. Il est amoureux tout d'abord d'une fille de petite vertu, finalement, qui après devient ambassadrice de France en quelque sorte.
Comme quoi ?
À Londres. Avec justement en utilisant un peu cette double casquette qui est parfois un peu facile. Je ne sais pas si on peut parler de casquette en l'occurrence. Et puis Aimée d'Aranay qui est plutôt une muse un petit peu qui retrouve parfois c'est toute cette histoire là. Il y a aussi l'histoire de son fils, puisque il a eu un fils avec justement cette fille qu'on évoquait précédemment, qui grandit au fil de la série et qui devient qui rentre dans les armées royales, et donc qui suit aussi dans sa vie. Et c'est vrai que c'est vraiment très très sympathique. Il y a vraiment toute cette vie des personnages qui est vraiment très très riche dans cette série.
Et c'est ça qui a fait le succès de cette série, qui d'ailleurs s'exporte, hein, comme tout à l'heure Aurélie le disait, dans des pays étrangers. Est-ce que est-ce que tous ces ingrédients, en tout cas, ont provoqué ce succès mondial ?
Mais oui, moi je crois vraiment que... Enfin, il y a la dimension historique qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est riche, qui permet d'apprendre en s'amusant et en lisant quelque chose de divertissant. Et puis, effectivement, il y a cette vie quotidienne, cette immersion dans un contexte. Et moi, quand je commence le livre, très très rapidement, on va dire le premier chapitre, le deuxième chapitre, ça va, on peut le lire, on peut, voilà. Mais à partir du troisième ou du quatrième, à partir du moment où il y a le mort, où il y a eu le premier mort, et là c'est fini, il faut le lire d'un coup, parce que on est entraîné finalement dans l'enquête, mais aussi dans cette découverte et dans cette vie quotidienne du héros. Alors, donc il y a aujourd'hui 11 numéros de Nicolas Le Floch dans la série littéraire, et c'est traduit dans plusieurs langues, en italien, en coréen, en espagnol, en anglais, en russe et en japonais. Voilà. Non, mais c'est aussi intéressant parce que ça exporte.
Oui, puis tout le travail sur le vocabulaire dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, les traducteurs, chapeau. Hein.
Oui, ça doit effectivement pas être très simple, mais je pense que c'est aussi intéressant en termes de diffusion finalement de l'histoire de France.
Et de la culture française.
Voilà, ouais. Je pense que c'est effectivement un élément important, et vu son activité de diplomate, on la retrouve aussi un petit peu dans la série, mais je pense que cette grande traduction en est aussi un peu un héritage d'une certaine façon.
Et justement, toi qui es fan de la série littéraire, comment t'as vécu le passage à la série télé ?
Alors la série télé, elle est particulièrement bien produite. Je crois que France 2 et la compagnie des Farébalis, qui est le producteur de cette série, a mis des moyens on n'a très peu d'anachronismes, très peu de... la qualité visuelle nous met vraiment dans l'ambiance. Il y a vraiment, enfin, c'est vraiment produit de vraiment de qualité avec un acteur qui porte cette série qui est tout à fait voilà dont on s'identifie bien finalement à ce personnage. Enfin, vraiment c'est assez réussi. Par contre, ben, on est dans une production qui vise la case du vendredi soir sur France 2, c'est-à-dire la case du policier. Et le choix du producteur a été d'orienter vraiment la série, la façon de l'adaptation en série télé autour de cette action du policier, du commissaire aux affaires extraordinaires, Nicolas Le Floch. Et on perd un petit peu justement ce qui, moi, en tous les cas, me parle beaucoup dans la série littéraire et qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire cette notion de vie quotidienne et cette notion aussi de vie des acteurs proches de la série qu'on perçoit vraiment au minimum dans l'adaptation. Et c'est un petit peu dommage, c'est pareil, les recettes, ils vont parfois... mais il manque un peu cet aspect-là, mais du fait du choix de privilégier l'action, ce qui est sans doute nécessaire aussi pour faire quelque chose qui soit visible dans une case télé comme celle d'un policier, quoi.
Puis on rappelle qu'il y a déjà eu 5 saisons, ça sera peut-être la dernière d'ailleurs apparemment.
Oui, alors 5 saisons de 2 épisodes, hein, donc c'est des petites saisons. Enfin, en tous les cas, pour la saison 5, c'est 2 épisodes. Il y en avait un petit peu plus, je crois, dans les précédents. Effectivement, c'est peut-être la dernière année, puisque France 2 cherche à faire des économies dans sa grille. Et c'est vrai que c'est sans doute un programme qui coûte cher. Mais bon, voilà, après, pour France 2, c'est aussi... en quelque sorte une forme de franchise puisqu'ils ont la possibilité de créer d'autres épisodes sans forcément attendre les romans. Alors ça conduit à certaines difficultés parce que la recherche historique est sans doute un petit peu moins poussée, mais bon, ça peut permettre aussi de faire vivre cette série peut-être un petit peu plus. Une des difficultés vraiment de la série, c'est le fait que les épisodes n'ont pas été diffusés dans l'ordre chronologique, contrairement à la série littéraire qui se construit vraiment, dont on suit le personnage au fil de l'année, donc enfin au fil des années, et où on se rapproche là de plus en plus et on ne sait pas comment ça va finir. Finalement, il risque d'arriver à la fin.
Ah si, on sait comment ça va finir. Ouais, on sait comment ça va finir. Au bout d'un moment.
Ça c'est certain. Mais enfin, on ne sait pas ce qu'il adviendra de Nicolas. De Nicolas Le Floch. Ça c'est effectivement un élément important. Donc les deux des épisodes de la saison 5 ont été diffusés ces derniers vendredis. Donc il est trop tard maintenant pour les voir. Il aurait fallu en parler plus tôt, mais c'était voilà. Mais par contre, ils sont sortis
avec le replay.
Voilà, on peut encore sans doute les voir.
Jours.
Oui, voilà, peut-être 2 jours en replay. Et puis sinon, ils sont sortis également en DVD. Et c'est vrai que c'est assez sympathique à regarder aussi. Voilà, ça change un peu de NCIS, Les Experts et toute autre série américaine. Voilà, c'est une belle série française, bien produite et sympathique. Voilà, donc il y a quelques petites critiques, mais c'est normal.
Rien de bien méchant.
Voilà. Mmh. Après, effectivement, moi j'espère que ça continuera sur la grille de France 2, parce que c'est vrai que c'est...
Je crois qu'il y a une pétition, d'ailleurs, qui a été lancée. Alors finalement, tu pourras peut-être...
Oui, je vais m'y précipiter dès la fin de cette émission.
Et puis bon, pour les accros, on va dire qu'il y a aussi un site internet qui est très bien réalisé.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment une très, très belle réussite de l'éditeur, Jean-Claude Dattès, qui est l'éditeur principal de cette série, puisqu'ensuite, c'est repris en format 10-18 dans la série des grands détectives. Donc le site, ça s'appelle Nicolas Le Floch, tout attaché, Floch, FLOCH.fr. Donc Nicolas Le Floch.fr, c'est un site dans lequel vous retrouvez plein de choses. Bon, effectivement, l'histoire de la série, la façon dont sont construites les histoires, et une chose très intéressante, vous avez le plan de Paris à l'époque et vous pouvez suivre l'évolution des personnages en fonction des épisodes. Il y a les recettes de cuisine qui sont reprises, il y a une partie pour les cruciverbistes, il y a un coin des enfants, il y a des dessins. C'est vraiment un site qui est très très riche, dans lequel il y a plein de choses et que les amoureux
de la série... Oui, très ludique aussi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on...
On peut y découvrir plein de choses.
On est acteurs.
C'est un site un petit peu vieillot dans sa mise en page, mais dans lequel il y a pas mal d'infos qui m'ont d'ailleurs bien aidé à préparer cette séquence.
Et l'actu, justement, tu parlais d'un numéro 11 qui vient de sortir.
Oui, voilà. Donc, l'actu, bah, c'était la série télé ces derniers vendredis. Mais c'est surtout l'année du volcan, le dernier opus de la série littéraire, qui est sorti début février. Donc, bah, là, par contre, on est quand même dans l'actualité directe. Oui. Donc,
Tu l'as lu ?
Et non,
il est là.
Je l'ai reçu juste avant le week-end et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. Bon, c'est quand même pas tout à fait minuscule. Hein, et...
Puis t'avais 50 nuances de gris à finir.
Oui, voilà.
Tu t'es dit, j'ai des priorités.
que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais donc voilà, ça fait quand même 450 pages, 470 pages. Donc il faut quand même prendre un peu de temps. Et moi, ça a l'inconvénient, comme je le disais tout à l'heure, que quand j'y rentre dedans, j'y passe la nuit. Donc il faut quand même essayer d'éviter. parce que bon, s'il y a un peu de boulot derrière, c'est un peu compliqué. Alors, une dernière actualité, mais là, c'est pour la partie, justement, scientifique et historique de tout ça. C'est une journée d'études qui a lieu à l'Université Paris 3 à la Sorbonne et qui est intitulée « Fiction policière, historique et série télévisée. Nicolas Le Floch, un expert au temps des Lumières ». Et voilà, donc c'est un petit peu ça. Et on va vous proposer, justement, pour changer de style... D'écouter le générique des experts, mais dans sa version musicale de départ, c'est un morceau des Who.
Thank you.
tu,
elle
et lui. Et non, vous ne vous êtes pas trompé, vous n'êtes pas sur TF1, vous ne regardez pas les experts. Et non, c'est la troisième partie de Actuel et lui. Et nous retrouvons une elle de Actuel et lui pour parler d'une de tes dernières sorties ciné, Aurélie.
Et oui, effectivement, j'ai été voir Les Misérables de Tom Hooper, qui sont sortis en salle en février et qui étaient encore à Mende la semaine dernière. Donc j'ai traîné ma copine Anne-Marie. Je lui ai dit, allez, on va se faire un ciné entre copines.
Tu dois me payer là quand même, faut me rembourser la place.
Ah, voilà, ça promet déjà, on voit que...
Voilà.
On voit que
ça... Oh, ce n'est que mon humble avis. Hein.
Bon, mais a priori, il a l'air d'être partagé. Alors peut-être, on va se poser la question, est-ce que c'est Misérable, est-ce que c'est un bel hommage à Victor Hugo ou est-ce que c'est une mauvaise comédie musicale?
Eh bien, j'opte sans hésitation pour la deuxième option. Donc je vous raconte. Au bout de 30 minutes, la messe était dite pour Les Misérables.
T'es gentille. Hein.
On était tendus sur notre siège, terrassés par la nudité des images et le son strident qui s'en dégageait. Donc Anne-Marie et moi, nous sommes tombés un dimanche après-midi dans un piège cinématographique. Le spectateur que nous sommes n'aurait sans doute pas été condamné à attendre...
C'est plutôt la spectatrice, mais enfin bon, moi je dis
oui,
ça, je dirais.
Oui, mais nous... Voilà.
N'aurait... Qu'est-ce que t'en
sais ? N'aurait pas été
t'as pas
condamné...
Été
n'aurait pas été condamné en temps normal à attendre la fin de la séance de torture. Mais nous avons fait preuve d'abnégation et d'un grand sens de la déontologie pour vous proposer aujourd'hui une critique honnête. Donc, on a tenu bon.
Et donc, vous vouliez vraiment partir, finalement.
Ah oui, effectivement, au bout de 30 minutes, on s'était fait une idée, mais il a encore fallu supporter deux longues heures de ce film musical grotesque, dégoulinant de pathos et d'outrance, deux heures avant d'être autorisé à fuir cette bouffonnerie. Un film construit sur des emphases élevées avec des barricades de kitsch, enfin bref, l'horreur.
Ouais, donc c'est ça fait envie là. Vous nous avez. En plus, c'est vrai que 2h30 de film, c'est toujours. Enfin, quand ça part comme ça, moi généralement, je suis toujours un peu vigilant aux films trop longs parce qu'on parfois on peut faire beaucoup plus court.
Oui, mais bon, naïf que j'étais, je pensais qu'on allait retrouver le roman de Victor Hugo, Les Misérables, qu'on retrouverait une France du 19e siècle, une histoire poignante, des rêves brisés, d'amour malheureux, de passion, de sacrifice, de rédemption. Bref, une affirmation intemporelle de la force inépuisable de l'âme humaine. Et puis des personnages inoubliables. Jean Valjean, tout d'abord, condamné au bagne pour le vol d'un pain, qui symbolise l'oppression qu'impose une société injuste à une population écrasée. Le policier Javert, qui incarne l'intransigeance républicaine, pas de rémission pour les anciens forçats, pas de grâce pour Jean Valjean. Mais aussi l'évêque, bienvenu, l'évêque de Digne, le chrétien véritable, qui sera le premier à aider Jean Valjean, qui offre la possibilité de la rédemption. Gavroche, le gamin de Paris, jeté sur le pavé, comme beaucoup d'autres enfants à cette époque, seul, sans gîte, sans pain, mais joyeux, libre, qui apporte un vent de liberté et de fraîcheur. Marius, l'étudiant, le petit-fils du grand bourgeois, le fils du colonel disparu à Waterloo, qui découvre la misère du peuple et se rallie au socialisme, l'amoureux de Cosette, parce qu'il y a quand même une histoire d'amour dans tout ça. Et surtout, l'histoire avec un grand H, sur laquelle sont rebrodées avec délicatesse et justesse des petites histoires d'une foule de personnages complexes, attachants.
Oui, donc c'était finalement pas très subtil, mais en même temps, c'est une adaptation d'une comédie musicale.
Ben oui, c'est ça. On était prévenus, on aurait dû se méfier. Les Américains qui s'attaquent à Victor Hugo en s'inspirant non pas du roman, mais de la comédie musicale, ça ne présageait déjà rien de bon. Universal a mis à la barre le consensuel Tom Hooper, seulement 3 films à son actif, mais notamment Le discours d'un roi, qui avait remporté en 2011 l'Oscar du meilleur film. Donc a priori...
C'est vrai que c'était un chef-d'œuvre quand même.
Ah oui,
c'était magnifique.
Voilà, donc il s'était dit, c'est bon. Après Le discours d'un roi d'ailleurs, Tom Hooper avait Hollywood à ses pieds, mais plutôt que de bégayer dans une nouvelle fresque historique, il a choisi d'adapter Les Misérables. Mais alors attention, pas le classique de chez Larousse, la version musicale de Broadway. Donc on est sur une adaptation d'une adaptation d'une adaptation. Les Mythes pour les Américains. Donc ça chante pendant 2h30, en anglais, en direct. Ça chiale, ça danse, on se bat sur les barricades. Le film confirme que Hooper est un directeur d'acteurs phénoménal. Anne Hathaway a d'ailleurs d'ores et déjà un Oscar gravé à son nom. Mais sa réalisation formatée ne résiste pas à la faiblesse du matériau de base, puisqu'évidemment, on a tellement transformé, maltraité ce, ce pauvre chef-d'œuvre de Victor Hugo qui apportait de l'ampleur, de l'épique, un réalisme explosif. Là, on se trouve face à des bondieuseries, des affres en tout genre qui ont la finesse d'un forçat aviné. Tiens, on revient au bagne. Surtout, le cinéaste ne parvient jamais à faire cohabiter la comédie, les Thénardier, par exemple, avec le tragédique Javert ou le mélo larmoyant de Jean Valjean. Bref, préparez-vous à déchanter.
Alors, juste pour être bien d'accord, parce qu'il y avait aussi une comédie musicale en France. Donc, la comédie musicale en France a été adaptée à Broadway, ça s'appelle Les Mises.
Voilà.
Et ensuite, ce film est l'adaptation de cette adaptation.
De cette adaptation en anglais. Les Mises. Ah, oui. Voilà.
Donc effectivement, du coup, on a perdu quelques versions.
Ah, Victor Hugo, il n'est plus là.
Non, franchement. Non,
on l'a bien perdu.
Non, mais le pauvre en même temps. Heureusement.
Bon. Mais ce qui est fou, justement, c'est qu'en fait, dans ce film, il y a énormément de stars. C'est même le tapis rouge, quoi.
Ah oui, on est d'accord. On est face à une cohue de stars. Anna Tawai, Russell Crowe, Hugh Jackman, Sacha Baron Cohen, qui viennent tous brailler en costume dans une adaptation pompière et pompante hein, pour nous.
Alors, vous aviez dit quand même que vous deviez être objectif tout à l'heure. Hein, mais bon,
ben, on est objectif, c'était horrible.
Ça nous a donné mal à la tête. J'ai pris des cachets hein, quand je suis revenue chez moi.
Bon, le générique était impressionnant, mais il ne sauve pas du naufrage cette version cinématographique. Hugh Jackman épate, on est d'accord. Bon, Anna Tawai, elle agace un peu avec sa performance. Je veux un Oscar, je l'aurai, quitte à me ruiner la santé, parce que vous devriez la voir, la pauvre, elle est l'ombre d'elle-même.
Oui. Elle le fait très bien. Oui, elle le fait très bien. C'est quand même une respiration, moi, je trouve, dans ce film. Bon, comme tu disais, en plus, ça braille. Ils ne chantent pas vraiment les Américains. C'est tout en force du début à la fin. Et c'est vrai qu'Anna Tawai, elle arrive à mettre un petit peu de nuance. Elle chante bien et ça fait du bien à nos oreilles aussi.
Oui, elle a une jolie voix, mais elle a vraiment payé de sa personne pour nous faire larmoyer, quoi. Hein. Ça chante tout le temps, effectivement. Quand tu disais braillement, moi, tu vois, j'avais dit la glotte de Hugh Jackman est tellement présente qu'on la voit tellement. Il est filmé en gros.
Tellement sexy, notre petit Hugh.
Oui, et lui aussi, il a payé de sa personne parce que dans les premières scènes du film, il est méconnaissable, hein. C'est assez impressionnant.
Pourquoi est-il méconnaissable ?
Il a perdu énormément de poids pour pouvoir jouer le bagnard. Et il a repris au fur et à mesure du film, en fait. Et comme ça, on le retrouve. Oui, quand il est au bagne, c'est impressionnant.
Donc vraiment une performance là pour le comédien.
Oui, tout à fait.
Et donc, à Hollywood, c'était le film où il fallait être.
Effectivement, c'est un film pour acteur bankable et oscarisable. Avant Russell Crowe, c'était son ami Paul Bettany qui avait longtemps été pressenti pour prêter sa carrure et son allure au redoutable inspecteur Javert. De même que Geoffrey Rush était en lice pour interpréter l'horrible mari des Thénardier, finalement qui a échu à Sacha Baron Cohen. Tout comme les filles se sont battues, alors Jessica Biel, Kate Winslet, même Mario Cotillard qui se sont écharpées pour avoir le rôle de Fantine qui finalement profite à Anna Tawai.
Et alors du coup, j'ai même vu un éléphant, je crois, dans le décor. Hein.
Et oui. Et
j'étais pas complètement endormie.
Non, tout à fait. C'était la fin pourtant, mais tu avais résisté.
J'ai tenu bon.
Et ça fait partie des petites choses qui ont survécu. Alors je résiste pas à vous raconter l'anecdote. Donc, Victor Hugo avait effectivement immortalisé dans Les Misérables cet éléphant de la Bastille qui sert de refuge à Gavroche et aux enfants des rues. Donc, pour recréer ce monument parisien dans lequel Gavroche habite, l'équipe a fabriqué un éléphant en polystyrène de 12 mètres de haut. En
fait, ils y vont pas avec
ah
bah de la
non,
cuillère.
Bah non, ils l'ont fait vraiment. D'ailleurs, dans les choses qu'ils font vraiment, on les voit construire une. Je fais une petite parenthèse avant de vous reparler de l'éléphant, mais ils construisent vraiment pendant un quart d'heure les comédiens la barricade sur laquelle ensuite ils feront l'assaut de Paris pour que ça fasse plus vrai. Alors heureusement, on n'a pas droit au quart d'heure total de construction de la barricade, seulement à quelques extraits. Donc l'éléphant.
C'est dommage.
Ah bah pourtant. C'était déjà long. C'était déjà long. Hein. Donc, l'éléphant de la Bastille, c'est le survivant en fait d'un projet napoléonien de fontaine parisienne dont la réalisation a été abandonnée après la chute de Napoléon en 1814 et qui a été confié à l'architecte Alavoine, mais abandonné donc au profit de la colonne de Juillet. Donc aujourd'hui à la Bastille, il y a la colonne de Juillet et plus l'éléphant. D'ailleurs, c'était en fait une maquette en plâtre, donc c'est pour ça que le polystyrène convenait, à l'échelle 1, qui avait été mis près du chantier dès 1814 et qui a été détruit seulement en 1846. Et en fait, elle constitue pendant 30 années un lieu de balade pour les Parisiens et un objet de curiosité qui sera souvent commenté par les écrivains. Et notamment, un des commentaires les plus célèbres, c'est cette utilisation par Victor Hugo pour l'habitation de Gavroche.
Mais est-ce que tu penses que les adaptateurs multiples ont gardé, et notamment dans la dernière adaptation, est-ce qu'ils savaient de quoi ils parlaient ou pas trop ?
Bon allez, on espère. on va dire qu'ils ont fait leur devoir quand même, que peut-être il y en a un ou deux qui ont lu Les Misérables.
Bon, et donc Les Misérables, on oublie complètement ?
Bah, pour résumer, je dirais qu'on est dans une fable mièvre, bourrée d'anachronismes, la comédie musicale des Misérables qui offrait au tout Hollywood l'occasion de se couvrir de ridicule. Et si Jean Valjean avait su qu'il tomberait un jour dans les griffes de Tom Hooper, il serait sans doute resté au bagne. Et nous, à la maison.
Oui, surtout ça.
Mais... En fait, moi, quand vous m'avez dit on va parler des Misérables, quand tu as dit on va parler des Misérables, moi j'étais super emballé parce que j'ai vu cette première comédie musicale, hein, donc première adaptation du livre. J'ai vu ça petit au théâtre Mogador et c'était fantastique. Enfin, ça collait relativement bien à l'histoire. On retrouvait des scènes marquantes. On en écoutera d'ailleurs une en conclusion de cette partie. Mais c'est vrai que j'avais presque envie justement d'aller le voir. J'ai pas eu le temps. Mais justement, en souvenir de tout ça, j'avais vraiment envie de.
Bah oui, effectivement, moi aussi, je connaissais la comédie des années 80. Et la musique, d'ailleurs, les musiques ont été conservées, les chansons ont été adaptées sauce américaine, donc on ne retrouve pas les paroles, on a en plus une espèce d'image de Paris un peu fantasmée qui du coup n'a pas le côté ampleur et révolution que pouvait apporter Victor Hugo, cette vision un peu de ce 19e révolutionnaire. 19e siècle révolutionnaire.
Ah oui, ça, là, c'était très présent dans la comédie.
Là, on est vraiment sauce américaine, quoi. Donc, du coup, justement, j'ai choisi de vous faire écouter la version française de la chanson des révolutionnaires. Je pense que là, vous allez voir un peu toute l'ampleur et comme ça pouvait être emballant.
Ouais, c'est vrai que l'image que j'ai de la scène de Mogador, c'est quasiment la liberté guidant le peuple, quoi, un petit peu. C'est un peu ça. Dans la représentation, c'était dans un peu dans ces tons très, très, très sombres. Finalement, la scène était très sombre et avec comme ça des éléments qui explosaient un peu le.
Là, on a perdu l'âme quand même de Victor Hugo, honnêtement. Ça reste une comédie musicale. Pour les Américains, pas destiné en fait aux Français.
Ouais. Et finalement, les personnages, est-ce qu'ils ont quand même gardé un peu de leur rôle dans la pièce de départ.
Alors justement, ce qui est très cocasse, c'est le couple des Thénardier, donc dans Les Misérables de Victor Hugo, ils sont à vomir quand même. C'est un couple qui doit garder Cosette, et puis finalement ils vont maltraiter cette pauvre gamine qui n'a rien demandé à personne. Et dans la comédie musicale, dans le film, alors là on a un couple déjanté un peu à la Tim Burton. Et limite, c'est eux qui vont nous faire une petite respiration dans ce film. On va rigoler. Ah oui. Bah, c'est fou quand même.
Ils sont complètement à contre-emploi par rapport à
contre-pied complètement, effectivement, de ce personnage, de ces deux personnages qui sont vraiment, encore une fois, à vomir dans le livre. Et puis là, dans le film, on ne comprend pas trop. Mais bon, tant mieux parce que nous, on en rigole. Mais c'est là où je dis, l'âme de Victor Hugo, elle n'est plus du tout là, ça c'est sûr. Hein.
En fait, on retrouve l'Helena Bowman Carter du film de Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, même son maquillage, ses tenues, ses coiffures sont proches de Tim Burton. Et du coup, si on le met en regard, par exemple, avec Javert, et qui est mais raide comme la justice, là, pour le coup, on lui a dit « tu souris pas », je pense qu'il a bien compris, Russell Crowe, que...
Oh, il fronce les sourcils pour faire le méchant.
Tout est dans le froncement de sourcils pendant 2h30.
Très constipé pendant le film.
Voilà. C'est très, très long. Et alors, du coup, quand ces deux personnages des Thénardier, face à la façon qu'a d'interpréter Javert, qui en plus est vraiment à côté de la plaque par rapport à cette droiture républicaine et ce qu'il apporte au livre vraiment de rigueur et pas de méchanceté. Là, on se dit, il est tellement désagréable, quoi, que...
C'est vrai qu'il joue très, très mal, quand même, Russell Crowe. Si tu m'entends, Russell, m'en veux pas, mais tu joues vraiment pas bien.
On t'aime toujours, mais là, franchement, non, quoi.
Bon, alors, on va peut-être justement se remettre dans l'ambiance de cette comédie musicale française, qui était un peu le début de toute cette série aussi de comédies musicales oui. qu'on a entendues en France ces dernières décennies. Donc, enfin, on va écouter ce thème. Alors, ça ressemble un peu à du Sardou, hein, mais oui. mais vous inquiétez pas.
Ça, avec quelques bières dans le nez.
De l'ampleur.
mais voilà, ça a un petit côté, oui, un peu lac du Connemara. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après pour terminer cette émission.
À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. Il faut gagner par la guerre. Notre sillon à labourer, déblayer la misère pour les blonds épis de la paix qui danseront de joie au grand vent de la liberté. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire
cette belle évocation de cette première comédie musicale qu'on aurait aimé retrouver sans doute dans ce film et qu'on n'a pas du tout retrouvé, hein, d'après ce que vous en avez dit.
Non.
Et bien voilà, c'est la fin de ce troisième.
Et on se quitte
déjà. Bon. On espère que vous avez passé un bon moment. D'ailleurs, si le moment n'a pas été bon, vous pouvez vous plaindre sur les réseaux sociaux de 47
FM. Sinon, faire
FM.
Des compliments. Hein. Oui, on n'est pas toujours obligé d'être dans le négatif. Hein.
Vous pouvez nous proposer des sujets, un courrier des lecteurs, n'hésitez pas. Voilà. Donc, le prochain numéro, c'est dans 15 jours, bien entendu, sur 48 FM. La rediffusion, c'est mardi à 18h11. Donc voilà, vous pourrez nous réécouter et réentendre si vous avez loupé certaines parties. Voilà, les commentaires acérés sur les Misérables ou le coup de cœur pour Amour en tout début de cette émission. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter tout ça aussi en podcast sur 48fm.org. Tu veux nous dire quelque chose, Aurélie, n'importe quoi.
Il a que deux filles et il arrive à s'en mêler dans les prénoms.
Jamais 203, il veut une troisième peut-être.
C'est ça.
Non, ah, moi, ce coquin de Guillaume.
Moi, je voulais déjà qu'on annonce ce dont on va parler la prochaine fois, puisqu'on le sait.
Eh bien oui, on le sait.
Voilà, alors, vous voyez comment on travaille bien.
Dis-nous de quoi tu vas nous parler la prochaine
Donc,
fois.
Donc moi, la prochaine fois, Guillaume, moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Peste et choléra ». Alors, c'est une idée que m'ont soufflé les amis de la bibliothèque de Mende, puisque elles vont, je dis elles parce qu'elles sont beaucoup de femmes, même s'il y a deux hommes, c'est vrai. Donc je voudrais dire ils. ils vont parler de ce livre, en fait, qui est le prix Fémina 2012. Donc, vous pouvez le lire, aller participer. Et puis, bah, moi, je donnerai mon avis dans notre émission. Et vous, de quoi vous allez parler ?
Eh bien, moi, je vais parler de lasagne, parce qu'on a parlé beaucoup de lasagne.
Cuisine c'est, ah, oui, super, voilà. C'est l'homme qui se met au fourneau.
C'est ça. On a parlé beaucoup de lasagne ces derniers temps dans l'actualité.
Tu veux nous cuisiner
avec...
du cheval ?
Et c'est ça, voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, mais...
mais on a déjà l'eau à la bouche.
Voilà, c'est ça.
Et Anne-Marie ?
Eh bien, sortie CD. On va parler un petit peu musique.
On n'avait pas parlé de musique encore. Super.
Voilà, donc rendez-vous dans 15 jours. Merci à de votre bientôt. Attention. Et à très bientôt.
Ciao, ciao.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle.
Elle.
Lui.
Lui. D'actuel.
Et lui.